6h30 à Paris, 8h30 en temps universel. La dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Et nous serons à Dakar, la capitale sénégalaise, où l'on s'émeut aussi, justement, du calvaire que vivent les Palestiniens de Gaza. Reportage dans un instant. Dans ce journal également, les États-Unis qui envisagent de nouvelles restrictions de voyage pour les ressortissants de 25 pays africains. La République démocratique du Congo et l'Assemblée nationale qui ouvrent la voie à un procès du ministre de la Justice, Constant Mutamba, soupçonné de détournement de fonds. Et puis le conflit Iran-Israël depuis vendredi. Et ses conséquences jusqu'au Ghana, en Afrique de l'Ouest, face à l'augmentation des prix du pétrole, les autorités d'Accra décident de renoncer à une nouvelle taxe sur les carburants. Quelle solidarité internationale pour Gaza, quelle solidarité africaine également, question que l'on s'est posée ce matin sur RFI à l'occasion d'une édition spéciale à réécouter sur notre site internet. Quelle solidarité africaine donc, alors que la Tunisie par exemple a vu le départ d'une caravane qui entend briser le blocus imposé par Israël sur le territoire palestinien. Autre illustration au Sénégal, où cela se manifeste de manière plus discrète. Quelques marches ont eu lieu, mais ces dernières semaines, c'est surtout une fresque murale qui a marqué les esprit. Elle dénonce le don de plusieurs dizaines de moutons par Israël à des familles sénégalaises, alors même que les Gazaouis, eux, sont affamés. Reportage de Juliette Dubois.
Sur l'île de N'Gor, un mur attire désormais les regards. Il est recouvert d'une grande fresque colorée. Au centre, un mouton ensanglanté, une référence à une récente distribution de moutons organisée par l'ambassade d'Israël. Cette œuvre a été réalisée par le collectif RBS Crew à l'initiative du collectif Artistes Africains contre l'Apartheid. Tabara Korkandia en fait partie.
L'ambassade, chaque année, distribue des moutons à des familles démunies, comme ils le disent. Pour nous, c'est inapproprié, c'est inadmissible, surtout en ces temps de génocide. On ne peut pas bombarder des gens, tuer des gens, les brûler vifs et venir dans un pays du Sud et prétendre à la charité.
Pour l'artiste palestinienne Yasmine Eid Sabag, l'idée est de sensibiliser avec le dessin.
L'information ne circule pas de manière suffisante pour que les personnes puissent comprendre en fait que c'est primordial de refuser ce genre de cadeau, de vraiment prendre une position très claire et nette.
En échangeant avec les étudiants engagés pour la cause palestinienne, le collectif a choisi d'élargir le propos à d'autres luttes. Un message fort est inscrit en anglais, personne n'est libre tant que tout le monde ne l'est pas.
En Afrique, il y a des conflits aussi graves, avec autant de morts, avec la famine, que ce soit au Congo, au Soudan. Il y a aussi la question du Sahara occidental qui est extrêmement importante. Et donc, il y a un peu cette question, nous, en tant qu'Africains, est-ce qu'on ne doit pas se concentrer d'abord sur ce qui se passe en Afrique avant d'aller voir plus loin?
Le 21 juin, une rencontre artistique aura lieu devant le mur pour créer un espace de deuil collectif. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Le Sénégal comme la Côte d'Ivoire, la RDC, mais aussi le Gabon ou le Burkina Faso, dont les ressortissants seront peut-être bientôt concernés par de possibles nouvelles restrictions d'entrée sur le territoire américain. La diplomatie des États-Unis envisage des interdictions de voyage au total pour les ressortissants de plusieurs dizaines de pays et s'en justifie. Les explications avec notre correspondant à Atlanta, Edouard Maï.
36 pays concernés, dont 25 pays africains, parmi lesquels la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Niger ou le Sénégal, selon un document consulté par le Washington Post et ensuite par Reuters. Le document a été signé par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, et envoyé samedi aux diplomates dans les pays concernés. Ces pays disposent de 60 jours pour remplir certaines conditions. Selon Washington, certains pays ne seraient pas en mesure de fournir des documents d'identité fiables ou auraient trop de fraudes dans l'administration. Et pour d'autres, un nombre important de leurs ressortissants aux États-Unis aurait dépassé la date limite de leur visa. La mesure s'ajoute aux interdictions d'entrée sur le territoire décrétées début juin pour 12 pays, dont la République du Congo, le Tchad ou Haïti, et des restrictions pour d'autres pays comme le Togo ou le Burundi. Donald Trump avait justifié ces mesures pour des raisons de sécurité nationale. Edouard Maï, Atlanta, RFI.
Concerné aussi donc le Nigeria, où la police a violemment dispersé une manifestation hier à Makurdi, capitale de l'état de Benue dans le centre du pays. Des milliers de personnes rassemblées pour dénoncer les violences régulières dans la région et celles en particulier qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes en fin de semaine dernière dans le village de Yelewata. Hier, des gaz lacrymogènes ont été tirés dans la capitale du Benue, donc sur les manifestants pourtant pacifiques, d'après des témoins sur place. Une société civile et une opposition qui donne de la voix, mais qui sont obligés de le faire de l'extérieur du pays, au Mali, où l'on revient maintenant sur ce projet de loi adopté la semaine dernière en Conseil des ministres, qui prévoit pour le président de la transition, le général Assimi Goïta, un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025, sans faire mention d'élection. David Bachet.
Les militaires au pouvoir avaient promis de ne pas s'y attarder, de sécuriser le pays, de réformer les institutions et d'organiser des élections. 5 ans plus tard, la période de transition a plusieurs fois été prolongée et les élections annoncées reportées. Les Maliens qui avaient cru à ces promesses sont désormais fixés. Oumar Berthé est avocat et politologue, chercheur associé à l'Université de Rouen.
On l'a vu venir, je pense que la transition passe maintenant dans une nouvelle phase. Il n'y a plus aucune perspective électorale, aucune perspective de faire une transition. On en revient à la case départ avant la restauration de la démocratie dans les années 90. Pour ça clarifie les choses. Il n'y a aucune volonté de laisser le pouvoir et de repartir dans les casernes.
La dissolution le mois dernier des organisations politiques du pays empêche toute velléité d'opposition sous peine de sanctions. Si certaines voix, en exil notamment, dénoncent les atteintes aux droits des Maliens et la confiscation du pouvoir, les autorités de transition ont verrouillé toute perspective de mobilisation au Mali. Oumar Berthé.
Il est certain que les partis politiques dissous vont tenter de s'organiser. Ceux qui sont en exil et ceux qui sont sur place encore. Mais tous ceux qui sont sur place, toute tentative de s'organiser pour s'opposer à cette mesure va être étouffée, non seulement par la violence, comme cela a été récemment, les enlèvements, les kidnappings, et la justice.
Les opposants promettent de ne pas se laisser faire et de résister à ce qu'ils qualifient désormais de dictature, sans dévoiler comment ils comptent contourner le risque de répression très dissuasif.
Dans l'actualité ce matin également, cette décision qui ouvre la voie à un procès en République démocratique du Congo contre le ministre de la Justice. Hier, l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites contre Constant Mutamba, soupçonné de détournement de fonds dans le cadre d'un contrat de construction d'une prison. Ministre dont la loi prévoit maintenant qu'il présente sa démission. Constant Mutamba, lui, rejette toute accusation de détournement et parle, je cite, d'acharnement et de complot politique. La RDC aussi, où les autorités de Kinshasa, ça compte désormais 29 morts après les inondations qui ont touché la capitale congolaise dans la nuit de vendredi à samedi, pourtant en pleine saison sèche. Elle touchait également la ville voisine de Brazzaville où un premier bilan avant-hier faisait état de 3 décès. L'indignation au Tchad de l'Union des journalistes tchadiens qui dénonce une grave atteinte à la liberté d'expression et à la liberté d'informer après un communiqué du procureur de la République. Autorité judiciaire tchadienne qui met en garde les journalistes se rendant à Mandakao, cette localité du sud du pays, théâtre d'affrontements intercommunautaires le mois dernier, qui valent en ce moment par ailleurs à l'opposant Succès Masra d'être en détention provisoire pour des accusations d'incitation à la haine. Le procureur estime que les journalistes pourraient entraver le travail de la justice et se retrouver eux-mêmes sous le coup de poursuite. Enfin, en Iran et en Israël, 4e jour ce lundi des hostilités débutées vendredi entre les deux pays, 4 jours de bombardements qui ont fait plus de 200 morts civiles, assurent les autorités iraniennes. Les services de secours israéliens évoquent, eux, 18 décès. Un conflit qui a pour conséquence de faire augmenter les cours du pétrole. Et conséquence en chaîne, la politique budgétaire du Ghana s'en retrouve bouleversée. Accra avait prévu une nouvelle taxe sur les carburants, mais les autorités ghanéennes font machine arrière, craignant que l'addition des deux ne soit trop salée pour les consommateurs. À Accra, la correspondance de Victor Cariou.
Nous suspendons la taxe sur le carburant conformément à notre engagement de protéger les consommateurs de la hausse soudaine du prix du carburant. Voici ce qu'a déclaré samedi 14 juin Richmond Roxon, porte-parole du ministère de l'Énergie et de la Transition Verte, lors d'une interview accordée aux médias ghanéens Channel One. La hausse du prix du baril ces 3 derniers jours, que le gouvernement impute notamment au conflit entre Israël et l'Iran, a entraîné, je cite, « des perturbations dans notre module de tarification ». Adoptée en surprise au Parlement début juin, la loi sur les prélèvements dans le secteur de l'énergie devait permettre, selon le gouvernement, de combler le déficit du secteur énergétique ghanéen, 2 milliards de dollars par an selon le ministre des Finances. Saluée par le Fonds monétaire international, cette taxe sur le carburant, 1,10 soit 10 centimes de dollars par litre, est cependant loin de faire l'unanimité au Ghana, certains membres de la société civile estimant injuste de faire porter le poids de la dette énergétique à l'ensemble des Ghanéens, notamment les plus pauvres. D'autres affirment également que cette mesure ne permettrait pas de remplir assez vite les caisses de l'État. À ce jour, le gouvernement n'a pas communiqué de nouvelles dates d'entrée en vigueur. Victor Cariou, Accra, RFI.
Accra, au Ghana, où il est 8h40 et vous êtes avec Juan Gomez.
Merci Xavier Besson. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à midi.